Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Thomas Schmel.
Il est midi, soyez les bienvenus sur BFM Business. À la une de l'actualité ce lundi, la ristourne par litre de carburant prolongée et augmentée dès septembre. Le sujet est en tout cas sur la table du projet de loi de finances rectificative étudié à l'Assemblée nationale avec beaucoup de compromis, de débats houleux qui reprendront cet après-midi. On fait le point sur les prochains amendements qui doivent être votés. Une pluie de résultats attendue cette semaine. 80 groupes rendent leurs résultats semestriels avec un contexte particulier. Particulièrement compliqué entre le ralentissement de la croissance et l'inflation. Que faut-il s'attendre? Et puis HSBC ouvre son fauteuil au Parti communiste chinois. C'est une première pour une banque étrangère. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre? On fait le point dans un instant. Bienvenue à tous. Il va y avoir du sport à l'Assemblée nationale cet après-midi. Reprise des débats à 17h sur le parquet et le paquet pouvoir d'achat et l'examen de son budget. Plus de 300 amendements sur la table. Dernière ligne droite, si la redevance audiovisuelle a été supprimée, un compromis a été trouvé sur la nouvelle remise sur le carburant. Le SMIC à 1 500 € retoqué. Surprise ! En revanche, l'opposition a réussi à faire passer une compensation pour les collectivités locales qui voient le RSA augmenter de 4%. Raphaël Couder, on l'entend, l'exécutif doit faire beaucoup de tractations pour parvenir à des compromis.
Oui, ce deuxième texte du paquet pouvoir d'achat contient effectivement plusieurs points très débattus. Alors, certaines mesures ont été votées sans difficulté, comme la suppression de la redevance audiovisuelle ou bien, vous le voyez, le relèvement du plafond de défiscalisation des heures supplémentaires. En revanche, le gouvernement a dû composer sur d'autres aspects du texte. Bercy a été contraint de trouver un compromis avec les Républicains pour pouvoir éviter la taxe sur les super profits des grands groupes. L'amendement sur cette taxation a finalement été rejetée de justesse à 18 voix près. Et en contrepartie, Bruno Le Maire a cédé sur un point. Il a accepté de renoncer sur l'indemnité carburant pour les travailleurs modestes. Indemnité voulue par le gouvernement, mais que les députés LR qualifiaient d'usine à gaz. À la place, l'exécutif propose donc d'augmenter la ristourne à la pompe. Cette remise qui passerait de 18 à 30 centimes par litre d'essence en septembre et en octobre avant de passer ensuite à 10 centimes.
Et cette aide sur les carburants doit être votée normalement cet après-midi. Raphaël, il y a eu une surprise, un premier revers pour la majorité sur les aides aux collectivités locales.
Oui, absolument. Premier camouflé pour le camp macroniste. Les députés Renaissance ont été mis en minorité sur le sujet de la compensation de la hausse de 4% du RSA. Un amendement allouant 120 millions d'euros au département a finalement été voté contre la volonté de l'exécutif. En cause, une conjonction de voix favorables de la gauche, du RN et FI. Inédit du groupe Horizon, le parti d'Édouard Philippe, pourtant allié de la majorité, mais il compte Horizon de nombreux élus locaux. Ce vote a entraîné une poussée de tension samedi dans l'hémicycle et a enrayé les débats. Les discussions vont donc se poursuivre cet après-midi avec encore 375 amendements à examiner.
Merci Raphaël Couder. 375 amendements, peut-être autant d'accros. On le voit, le gouvernement est en passe de faire voter son texte, mais les votes sont toujours serrés, notamment pour rejeter les amendements issus de la NUP ou du RN. Les députés de la majorité ont refusé de justesse un texte qui visait à taxer davantage les super profits des grandes multinationales, des transports, de marchandises ou des pétrolières. Une taxe qui pourtant soulagerait grandement la population française, estime Valérie Rameau, et prélèverait une partie des bénéfices exceptionnels provoqués par les crises successives, selon la députée PS.
Nous demandons au gouvernement de faire une conférence sur le financement de la crise sanitaire. Bon, là, à cette crise sanitaire se rajoute la crise sur l'inflation. Tous les pays se posent la question du financement, sauf la France. Donc là aussi, il y a quand même un mystère absolu qui existe, de savoir pourquoi le gouvernement ne refuse d'avoir un débat sur le financement. L'Espagne taxe les super-profits. L'Italie, qui avait comme Premier ministre Mario Draghi, que personne ne pourra considérer comme un gauchiste dangereux, taxe les super-profits. Avait même un taux à 10%, l'a fait passer à 25%, de manière temporaire. Bon, pourquoi est-ce que la France refuse de le faire? Le Royaume-Uni va le faire.
Valérie Rabault, invitée de BFM Business ce matin. Ce projet de loi de finances rectificative, on en parle par téléphone avec Hervé Gouletker. Bonjour.
Bonjour.
Stratégiste spécialisé dans les finances publiques. Hervé Gouletker, on le voit avec la prolongation et l'augmentation de cette remise sur les carburants de 18 à 30 centimes. Est-ce que l'exécutif peut encore se permettre des dispositifs généreux de soutien au pouvoir d'achat de manière très générale et très étendue au plus grand nombre?
Je dirais qu'il y a trois réalités à prendre en compte. Il y a une réalité qui est liée au passé. La seconde sera le présent et puis la troisième sera l'avenir. Sur le passé, on voit bien qu'on a une situation de compte public qui est pas très bonne et qui en fait montre que, eh bien, c'est plus important chez nous qu'ailleurs. Rappelons simplement qu'on a une dette publique, au sens de Maastricht, de 114 points de PIB. C'est 17 points de PIB que dans le reste de la zone euro. Et pourtant, au même moment, on a des recettes publiques qui pèsent 52 points de notre richesse, de notre produit intérieur, là où dans la zone euro, c'est 46. Donc, c'est plus dégradé et on prélève plus qu'en France, plus qu'ailleurs en France que dans le reste de la zone euro. Donc, on le voit, il y a une situation qui est à la fois plus dégradée et une situation qui fait qu'on prélève plus. Le présent, on voit bien que, oui, il y a cette accélération des prix qui crée des situations compliquées, surtout pour les plus modestes, et que l'on doive aider. Oui, c'est absolument normal, mais attention à la méthode sur aider. Il ne faut pas aider en fonction de l'inflation passée, parce que dans ce cas-là, ça risquerait d'enclencher une spirale inflationniste dont on aurait du mal à sortir. Les années 80 nous l'ont rappelé. Il faut avoir une vision non pas centrée sur le passé, mais centrée sur l'idée qu'on se fait de l'inflation demain. Si on est tous d'accord sur l'objectif d'un ralentissement des prix, eh bien, il faut faire nos indexations sur cet objectif commun. Là, il y a une vraie question de méthode. Oui, aider, mais aider intelligemment.
Et intelligemment. Hervé Gouletker, certains avaient appelé à des aides ciblées. Est-ce que renoncer à ces aides ciblées sur les gros rouleurs, les transporteurs, est-ce que c'est soutenable pour les finances publiques?
En fait, oui, ça serait. Les aides ciblées, c'est toujours mieux que les aides généralisées. L'ennui des aides ciblées, c'est que c'est un peu les usines à gaz. L'expression a été beaucoup employée récemment. C'est compliqué à mettre en place. Or, on voit bien que face à la problématique du moment, il faut agir rapidement. Et agir rapidement, c'est être simple. Et donc, c'est là où on prend la voie du général, parce que c'est plus efficace que la voie du particulier, même si la voie du particulier serait sans doute plus adaptée. Mais je voudrais juste dire que ô combien il est important de s'inscrire sur une trajectoire un peu de moyen terme, avec deux principes. Je pense que les investissements qu'il va falloir faire pour réussir la transition énergétique, ça peut sans doute se financer par la dette. Par contre, tout ce qui est dépenses courantes, tout ce qui est dépenses sociales, ça ne peut pas être financé comme cela. Donc ça doit être financé soit par un surcroît de recettes, mais on l'a vu, les prélèvements sont déjà très élevés en France, soit par des arbitrages entre les dépenses. Si on dépense plus ici, est-ce qu'on peut dépenser moins ailleurs? Tout ceci pour dire qu'on ne peut pas être simplement dans la réaction, on ne peut pas être simplement dans l'émotionnel face aux problèmes, aussi objectifs soient-ils que l'on rencontre. Il faut avoir de la méthode et voir loin dans la gestion des finances publiques. On l'a peu fait par le passé, d'où le niveau de dégradation que l'on a aujourd'hui. Je pense qu'il est temps de mettre plus de méthode dans l'approche que l'on a. Puisse le Parlement cet après-midi garder cette idée en tête.
Et alors, justement, vous parlez de méthode et non pas d'émotion, la redevance audiovisuelle qui a été supprimée. On a le sentiment que ça a été fait avec beaucoup d'émotion pour répondre peut-être à des demandes, à des promesses de campagne. On supprime cette redevance, mais elle va tout de même être financée, la radio publique, la télévision publique française, grâce à la TVA qui sera indexée et qui sera fléchée. Pourquoi est-ce qu'on élargit au plus grand nombre de contribuables le financement du service public de l'information plutôt que d'élargir peut-être l'assiette de la redevance audiovisuelle?
Alors, je pense que c'est un point très particulier. Il me semble qu'il oppose deux sujets. Le premier sujet, c'était la promesse du président Macron durant la campagne. Et on voyait bien que derrière cette promesse, il y avait l'idée de faire baisser les impôts, faire baisser les prélèvements. C'est quelque chose qui est cher au président.
Mais finalement, ils sont répartis à tout le monde. On baisse de 138 euros pour 20 millions de foyers, mais tout le monde devra payer puisque ce sera prélevé sur la TVA.
Oui, alors voilà. Après, est-ce que pour une dépense très spécifique et très pérenne, il faut mieux avoir une recette vraiment fléchée, ce qui était le cas jusqu'à maintenant, ou alors perdre cela dans le grand tout des finances publiques en disant on trouvera toujours les quelques petits milliards dont on a besoin? On voit que la première approche, le fléchage, était plus confortable, je dirais, pour la pérennité du service public de l'audiovisuel. La seconde méthode, elle ne met pas à risque le financement, mais on voit bien que chaque année, eh bien, il y aura quand même un questionnement sur comment on fait. Donc, le grand tout, évidemment, c'est facile, mais sans doute le fléchage en la matière était préférable.
Plus de méthodes, plus de prévisions. Merci Hervé Goulet-Kerr d'être intervenu sur BFM Business pour votre analyse sur ces compromis que doit faire la majorité pour faire passer ce projet de loi rectificatif des finances. Hervé Goulet-Kerr, stratégiste économiste spécialisé dans les finances publiques, merci d'être intervenu. Dans le reste de l'actualité, justement sur ces aides pour les ménages, Leclerc va relancer la vente à prix courant pour le week-end du chassé-croisé et du 28 au 30 juillet. C'est Leclerc qui ne fera aucune marge sur la vente de carburant, une opération à prix coûtant qui pourrait bien être la dernière du genre puisque la disposition de la loi climat prévoit à partir du 22 août l'interdiction de faire de la publicité sur des rabais, des promotions sur les carburants fossiles. Midi 12 sur BFM Business, c'est l'heure des comptes pour les grandes entreprises. Plus de 80 groupes vont publier cette semaine leurs résultats entre inflation et ralentissement de la croissance. L'incertitude règne notamment sur l'industrie automobile. Plastic Omnium a été poussé à la résilience malgré l'inflation, la pénurie de matières premières. L'équipementier automobile a publié ce matin un chiffre d'affaires semestriel en progression de 4,3% par rapport au premier semestre 2021. Le résultat net, lui, est en repli, conséquence de la dégradation des marges. Le directeur général du groupe, Laurent Favre, est confronté à de grandes difficultés.
C'est clairement l'enjeu principal à court terme, c'est arriver à gérer l'inflation avec plus de productivité évidemment, et puis la gérer avec des économies d'énergie, des économies dans tout ce qu'on peut faire, si je pourrais dire ainsi, et puis travailler avec nos clients pour essayer de maintenir nos marges, ce qui est important parce qu'on est en pleine transition énergétique. Donc transition énergétique, c'est investissement. Investissement, c'est financé par les marges actuelles. Donc l'enjeu principal pour PO, c'est l'inflation à court terme.
Le ralentissement de la croissance inquiète particulièrement l'économie américaine après le recul surprise du PIB au premier trimestre. On attend jeudi les chiffres de la première économie mondiale. Demain et après-demain, la Fed, elle, doit se réunir et devrait procéder à une quatrième forte hausse de ses taux directeurs pour tenter de lutter contre l'inflation aux États-Unis. Une économie qui tourne au ralenti, ça se ressent dans les résultats des entreprises à Washington. Antoine Lard.
Le premier enseignement qu'on peut tirer, c'est d'abord le ralentissement dans la tech. Snapchat ou Twitter, par exemple, ont présenté des chiffres extrêmement décevants, bien en dessous des attentes. La faute, notamment, au marché de la pub devenu très frileux à cause de la guerre en Ukraine, du risque de récession et de l'inflation. Alors, on scrutera cette semaine, évidemment, les résultats de Meta et Alphabet. Signe d'une forme de nervosité, les deux groupes ont déjà annoncé un gel des embauches. Autre secteur chahuté, l'alimentation. PepsiCo a vu ses marges se réduire, plombées par des coûts de transport en nette hausse. Le groupe a donc dû s'adapter. Il a augmenté ses prix ou réduit, par exemple, la taille de ses paquets de chips, ce qui lui permet de se maintenir à flot. Enfin, le secteur bancaire est un bon résumé de l'état de l'économie américaine. Wall Street est vraiment dans l'expectative. Du côté de JP Morgan, le ton n'est plus aussi dramatique. Le grand patron avait prédit un ouragan économique, mais la semaine dernière, il a tempéré en disant que certes, il y a des nuages à l'horizon, mais que les fondamentaux restent solides. Signe que le crash de l'économie est peut-être encore évitable et que la récession que beaucoup prédisent pourrait être finalement bien moins forte que prévu.
Un coup de tonnerre dans l'automobile. Herbert Diess quitte la tête du géant de l'automobile Volkswagen alors que la marque est en train de planifier l'introduction en bourse de Porsche malgré la justesse de ses choix stratégiques. Après 4 années mouvementées à la tête du premier constructeur européen et les cicatrices du Dieselgate, le dirigeant autrichien avait fini par se mettre à dos le conseil de surveillance de Volkswagen. Le Parti communiste chinois s'installe dans un fauteuil de HSBC. La banque sino-britannique a mis en place un comité au sein de sa filiale chinoise, selon le Financial Times. C'est une première pour une banque étrangère et c'est peut-être une brèche qui s'ouvre, Sébastien Lebelzik.
Alors ces comités, hein, composés généralement de 2 ou 3 membres, ont pour mission de représenter les intérêts du Parti communiste au sein des instances dirigeantes de l'entreprise. C'est même une obligation en Chine depuis près de 30 ans. Mais jusque-là, les multinationales avaient pu s'y soustraire, en tout cas jusqu'en 2014, au lendemain de l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, où progressivement, le Parti communiste a activé ici ses comités. On sait que L'Oréal ou Renault, par exemple, ont déjà de tels comités présents au sein de leurs filiales en Chine, tout comme 71% en fait des multinationales ici. Mais c'est la première fois qu'une grande banque comme HSBC se plie à cette obligation, une décision très critiquée par la classe politique en Grande-Bretagne. HSBC, dont le siège est à Londres, réalise la majeure partie de son chiffre d'affaires en Asie. Elle est donc très dépendante de Pékin. Dans un communiqué, la banque explique que ce comité n'a aucune influence sur la direction de l'entreprise. Mais en tout cas, il dispose bien, par exemple, d'un droit de regard sur la gestion des ressources humaines. Un tournant qui pourrait annoncer d'autres comités du parti, par exemple chez Goldman Sachs, JP Morgan ou Crédit Suisse.
Les professionnels du tourisme scrutent de très près le bilan, alors qu'on est presque à la fin du mois de juillet. Le premier bilan de la saison estivale à mi-parcours, on y voit déjà un peu plus clair après des inquiétudes sur le début de l'été cette année. Eh bien, c'est le retour aux fondamentaux. Les réservations sont concentrées dans le sud, particulièrement autour de la Méditerranée. Au global, les derniers chiffres du site de particulier à particulier vacances montrent une nouvelle hausse des réservations par rapport à l'avant-crise et des loyers qui, à quelques exceptions près, s'envolent encore, Marie-Cœur de Roy.
La Méditerranée redevient l'incontournable des vacances d'été. Les demandes de réservation ont littéralement explosé sur la Côte d'Azur selon le site PAP Vacances. Plus de 30% de hausse par rapport à l'avant-crise. Ça grimpe également de plus de 20% en Corse et 7,5% pour les plages du Languedoc. À l'inverse, la façade ouest semble s'essouffler. À l'exception de l'Atlantique Sud où la demande progresse encore légèrement, les autres secteurs reculent et parfois très nettement avec des baisses supérieures à 20% pour la Normandie et pour la Manche. Arcachon est la seule ville de la façade atlantique à se maintenir dans le top 10 des stations balnéaires les plus réservées. Pour autant, la hausse des tarifs des locations, elle, est générale et frôle au global les 5% par rapport à l'an dernier pour les appartements et même 7% pour les maisons. Notez quand même une exception. Les maisons sur la côte normande se louent cette année environ 2,5% moins cher que l'an dernier.
Un mot pour vous rappeler notre événement les 9 et 10 décembre de cette année à Courchevel, la deuxième édition de Montagne Écologie et Technologie, un start-up contest, une compétition pour les 10 meilleurs projets qui seront sélectionnés, présenter leurs innovations. Inventons la montagne de 2030. Midi 17 sur BFM Business, on jette un œil à la bourse. Rejoindre Aude Kersulek à Euronext. Aude, la Bourse de Paris est en hausse pour cette première mi-journée, mais la tendance est loin d'être claire.
Et oui, on se cherche, on a ouvert en baisse ce matin, en baisse après ce qui s'est passé en Asie ce matin et puis vendredi soir à Wall Street où la tech baissait et emmenait les indices en territoire négatif. Là, grâce à des secteurs qui performent bien, notamment l'automobile, on le verra plus tard, on réussit à obtenir une hausse de 0,5% sur le CAC 40, 6248 points. Décidément, beaucoup de résilience ces derniers temps sur les indices boursiers. On monte quand les signaux ne sont pas forcément positif encore ce matin du côté de l'Allemagne avec l'indice IFO du climat des affaires qui est ressorti bien plus bas que ce qui était attendu. On l'attendait à 90, il est à 88 et c'était déjà un beau recul. Donc comme quoi les chefs d'entreprise allemands n'ont pas le moral, mais on réagit peu à ça, même en Allemagne où le DAX prend lui aussi 0,5%. Alors ce qui est vrai, c'est qu'on prend aussi un petit peu d'assurance au début d'une semaine qui est très chargée, une semaine à haut risque, tant en termes termes macroéconomiques que microéconomiques. On aura évidemment cette réunion de la Fed mercredi soir où on connaîtra cette hausse de taux qu'on attend à 75 points de base. Le PIB américain jeudi ou l'inflation encore vendredi, mais aussi tous les résultats d'entreprises qui vont continuer de tomber des deux côtés de l'Atlantique. Beaucoup, beaucoup en France, notamment toutes les entreprises du luxe qui vont publier 30 sociétés sur les 40 qui composent le CAC 40. Sur les évolutions de valeur à midi et 19 minutes, on a Renault, la plus forte hausse à 3,5%, 26,76 €. À l'inverse de Volkswagen qui baisse à Francfort, moins 1,7% après le bouleversement à la tête du management dont vous avez parlé. Orange qui monte aussi après son rapprochement avec l'espagnol Masmobile dans une co-entreprise qui deviendra le deuxième acteur du marché espagnol, plus 1,5% pour Orange à 10,28 €. Thales et le secteur pharmaceutique en repli. Et puis sur l'indice large, grosse chute pour Eutelsat. Eutelsat qui a confirmé ce matin qu'il était sur le point de se rapprocher de son concurrent britannique OneWeb. Alors, il possède déjà 23% de OneWeb. Mais là, dans un communiqué, on apprend qu'il devrait y avoir un échange d'actions entre les deux entreprises pour créer une nouvelle entité. Et ça plairait pas aux investisseurs actuels d'Eutelsat. Et la valeur dégringole de 17% à 8,65 €.
Quelques résultats ce matin, Aude, ont fait réagir les investisseurs, notamment d'équipementiers automobiles.
Et oui, ça marche plutôt fort pour eux, mieux que les attentes pour Forvia, notamment Forvia issu de la fusion entre Faurecia et Hella, lors des ventes à 11 milliards d'euros, plus 9% à périmètre et taux de change constant, alors qu'il y a justement une intégration de fait. Il y a une perte nette encore pour Forvia, mais le bénéfice opérationnel se monte à 426 millions d'euros. La marge opérationnelle est un tout petit peu plus basse que ce qu'on attendait, 3,7%. Alors, comme c'est dur pour l'automobile en ce moment, Forvia confirme ses objectifs annuels et ça, le marché le prend plutôt bien. Le titre Faurecia est en hausse de 6,9% à 18,07 €. Plastic Omnium, ça reste aussi assez bien. Des résultats semestriels qui sont supérieurs aux prévisions, même s'ils sont en repli par rapport à l'année précédente. Un chiffre d'affaires hors effet de change et de périmètre qui est quasi stable. Recul de la marge, là aussi, de 2 points à 4,6%. Mais la valeur prend plus de 5% sur l'indice large à 19,12 €. Et puis Icade, enfin, dernier résultat de la matinée, publie un résultat net part du groupe en hausse de 60%. 68% même, avec une hausse de chiffre d'affaires de 6%. Là aussi, on confirme les objectifs annuels pour cet acteur de l'immobilier. Et là, on prend aussi un petit peu plus de 1% maintenant, donc pour Icade, et encore d'autres résultats beaucoup à venir dans la semaine.
Merci, Aude Kersulek. On les suivra avec vous, ces résultats, toute cette semaine, en direct d'Euronext pour BFM Business. Midi 22, dans 60 minutes business. Restez avec nous dans un instant. On fera le point sur les remboursements de PGE. C'est le dernier délai pour les entreprises qui doivent rembourser ses prêts garantis par l'État. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui des trésoreries quasiment un an après la fin du Covid et du quoi qu'il en coûte? On fera le point dans un instant avec notre invité. À tout de suite.
BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Thomas Schmel.
Midi 24, bienvenue à tous dans 60 minutes business. Il faut commencer à rembourser les prêts garantis par l'État. Beaucoup d'entreprises ont déjà débuté leur remboursement. Désormais, il n'y a plus de report possible. Pierre Pellouzet, bonjour.
Bonjour Thomas Schnell.
Vous êtes avec nous, médiateur des entreprises. Pierre Pellouzet, aujourd'hui, la Banque de France s'alerte. Il y aurait certaines entreprises qui pourraient faire défaut à rembourser leur PGE. Où en est la situation des trésoreries des entreprises aujourd'hui?
Alors la situation est globalement bonne, on voit des entreprises qui ont une trésorerie de bon niveau, parce que le quoi qu'il en coûte a bien joué son rôle, parce que aussi 2021 et 2022 dans une moindre mesure sont des années de croissance, donc les trésoreries vont globalement plutôt bien. Ceci étant, on a deux éléments de vigilance, un élément qui est plutôt conjoncturel et puis un élément sur lequel je reviendrai qui est la date à laquelle nous sommes, c'est-à-dire l'été qui est toujours... une période difficile pour les entreprises. Sur le conjoncturel, il y a la flambée des matières premières qui, bien entendu, va jouer sur les trésoreries des entreprises, hausse de toutes les matières premières, hausse de l'énergie, tout ça tire sur les trésoreries et on voit petit à petit des tensions de plus en plus fortes. On les ressent, nous, en médiation, avec des entreprises qui viennent nous saisir parce qu'elles ont des difficultés à faire passer les hausses à leurs clients ou à accepter les hausses de leurs fournisseurs. Et puis sur l'été, on sait qu'on est dans une période critique. Tous les ans, on a le même sujet de retard de paiement de facture au mois d'août, tout simplement parce que beaucoup de gens, et c'est très bien, partent en vacances, mais malheureusement, pendant ce temps, les factures ne sont pas payées et on se retrouve, nous, avec une flambée de médiation à la rentrée pour toutes les factures non payées. Donc, s'il y a un premier message à faire passer aujourd'hui, c'est grandes entreprises, grandes administrations, débrouillez-vous pour que les factures soient payées pendant l'été. Appuyez sur le bouton avant de partir ou faites-vous remplacer. Mais il faut jouer sur cette trésorerie positivement en payant les factures.
Des délais de paiement qui peuvent fragiliser des entreprises en plein été. 148 milliards d'euros au total ont été contractés dans ces prêts garantis par l'État. Est-ce qu'on doit s'attendre à des défaillances? On sait que le nombre de défaillances s'était effondré avec le quoi qu'il en coûte pendant le Covid. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un chiffre qui pourrait repartir à la hausse?
Alors, il faut se dire qu'on est revenu dans une économie normale, hein, c'est-à-dire on n'est plus dans une économie assistée comme on la connaissait avec le quoi qu'il en coûte à cause de la crise sanitaire. Et dans une économie normale, il y a des entreprises qui se créent, des entreprises qui grandissent et parfois il y a des entreprises qui disparaissent, qui meurent. Donc ça, c'est normal. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a effectivement un retour des entreprises, pour le moment beaucoup moins que ce qu'on a connu historiquement. Donc on a encore, je disais, des effets très positifs du quoi qu'il en coûte, mais aussi de la reprise économique. Donc si on est vigilant, si tout le monde joue le jeu, si les clients, qui sont quand même les premiers fournisseurs, si je peux le dire comme ça, de trésorerie, hein, faut le rappeler, le gros de la trésorerie des entreprises vient des clients. Donc si les clients jouent le jeu en payant leurs factures, en donnant même des avances pour payer la matière première ou l'énergie qui va être en supplément, on a de bonnes chances de rester dans l'épure, c'est-à-dire dans un nombre de défaillances normal pour une économie en croissance et en développement comme la nôtre.
En tant que médiateur des entreprises, Pierre Pellouzet, vous sentez le pouls des entreprises. Quelles sont celles aujourd'hui qui sont le plus en difficulté? Quel secteur? Quelle taille peut-être?
Alors, il n'y a pas de règle, puisque finalement, tous les secteurs ont repris. On a longtemps parlé de la restauration, du commerce, mais on voit à quel point la restauration a bien repris, avec le tourisme redéveloppe. Donc, on n'a pas de secteur en grande difficulté. On travaille beaucoup avec le BTP. Non pas que le BTP aille mal, bien au contraire, il y a beaucoup de commandes, beaucoup de développement, mais sur les sujets matières premières et énergie. Donc, c'est plutôt une vigilance sur un certain nombre d'acteurs. Certains qui étaient fragiles avant, et il y en avait, comme tous les ans, je vous le disais, il y a des entreprises qui sont en difficulté parce que c'est la fin de leur modèle de business, parce que il y a des difficultés internes ou un produit qui ne se vend plus. Et là, ces entreprises qui ont tenu le coup grâce aux aides, bah, aujourd'hui, arrivent en bout de course, et c'est normal, elles vont disparaître. Et puis, des difficultés liées à la conjoncture, et encore une fois, vigilance sur des entreprises qui vont très bien, mais dont les trésoreries se tendent parce que des matières premières, etc., et difficultés avec les clients. Donc voilà, si on est vigilant, on devrait passer le cap tranquillement et avoir un nombre de défaillances qui reste tout à fait raisonnable. Si tout le monde ne joue pas le jeu, là, ça va être plus difficile.
Pierre Pellouzet, médiateur des entreprises, merci d'être intervenu sur BFM Business. On l'entend, voilà, une bonne résilience, une bonne santé des entreprises, malgré le ralentissement de l'économie et l'inflation, et une période un peu sous turbulence à traverser pour les petites entreprises confrontées aux délais de paiement. Midi 29 sur BFM Business. Dans un instant, le rappel des titres, et puis BFM Business avec vous. On répond à vos questions. On vous donne la parole, à vous qui recrutez. À tout de suite.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
Comment réussir sa reconversion? On répond à vos questions dans BFM Business avec vous tout l'été. Le reconverti parfait, c'est David Douillet, l'ancien champion olympique, on s'en rappelle, ancien ministre des Sports également. Aujourd'hui, chef d'entreprise dans l'immobilier. Guillaume Paul et Lorraine Goumeau dans BFM Business avec vous l'avaient reçu. Il faut repartir de zéro. Il l'avait appris en tant qu'athlète.
Il faut repartir de zéro. Voilà. Alors ça, on l'a appris en tant qu'athlète. Après chaque médaille, on repart évidemment de zéro. Mais là, on est un peu dans le néant, dans l'inconnu, parce qu'on repart dans zéro, dans quelque chose, un domaine, un univers, où on n'a plus de repères. On n'a plus de repères dans le temps, puisque toute notre vie a été normée par le temps des compétitions, des dates,
On n'a pas le temps de réfléchir à l'après.
Non,
après,
parce que là, c'est... tout est flou. On fait quoi, comment, sur quelle échéance, sur, voilà, on est complètement paumé. On perd ses repères. Donc là, il faut se recentrer et se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai en moi? Quelle est ma colonne vertébrale? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que j'ai pu apprendre dans cette grande école qui a été le sport de haut niveau? Parce que c'est une grande école en réalité, comme HEC, comme l'ESSEC, etc. Donc, quels sont mes atouts? Je manque de technique. la technique, je suis capable de l'apprendre. Donc voilà, c'est de faire un point, une espèce de bilan personnel qui vous permet, selon vos choix ensuite, ce que vous avez dans, envie de faire, hein, de choisir un domaine. Et faut ne se soustraire de rien. Il faut ouvrir vraiment très large sa vision en disant voilà, j'ai des principes, j'ai une capacité de travail. J'ai juste à prendre la technique pour la mettre en œuvre. C'est tout ce que j'ai à faire.
Et comment ça a émergé l'envie d'être entrepreneur? Parce que enfin, sportif de haut niveau, ça prépare à beaucoup de choses.
Un sportif de haut niveau est un entrepreneur.
Ah, vous voyez comme ça.
Un sportif de haut niveau est un entrepreneur. Il fonctionne comme un entrepreneur. Il doit avoir les mêmes valeurs qu'un entrepreneur. Je dirais même qu'un entrepreneur a les mêmes valeurs qu'un sportif de haut niveau. C'est un compétiteur. Déjà par nature, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de la concurrence, qui sait se aller au feu, qui sait se mettre en risque, qui sait mettre en œuvre une stratégie, et puis surtout organiser une capacité de travail en groupe et en équipe d'une manière extrêmement précise. Donc, un athlète de haut niveau, c'est un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est un athlète de haut niveau.
Lorraine.
Alors, en groupe et en équipe, justement, on a une question d'Alain qui nous a aussi écrit sur LinkedIn. Il nous dit se reconvertir, se réorienter. Très bien, encore faut-il être accompagné. Qui conseillez-vous à la porte de qui faut-il aller frapper pour se reconvertir?
D'abord, il faut écouter les autres, son entourage. Ça, c'est important. On se coupe souvent des plus proches, alors que ce sont eux les vrais experts de votre propre personnalité. Ça, c'est la première chose. Quel qu'il soit, hein, mais bien définir son entourage, proche, extrêmement proche, familial même, pour écouter ce qu'ils disent de vous et ce qu'ils sentent que vous êtes capable. Ensuite, il faut tester, il faut être curieux, il faut aller gratter, il faut aller chercher, il faut même conceptualiser les choses, il faut prendre, chiffonner la page, l'acheter, en réécrire une autre, et puis avancer comme ça. Et à un moment donné, on va attraper quelque chose. Et quand on le sent au fond de soi...
Vous avez mis combien de temps à le cerner, vous, à l'attraper?
15 jours.
Enfin, on rappelle que vous avez quand même des bons gènes, quoi.
Jours. Non, mais voilà. Et puis après, une fois que j'ai attrapé ça, ben, j'ai creusé. Et c'est devenu. Et je suis arrivé dans le monde des médias, dans votre monde, à l'époque, juste après les Jeux Olympiques, à travers un gros groupe que vous connaissez, qui est concurrent, à travers le monde des sports, les achats des droits, etc., etc. Et en fait, j'ai ajouté un énorme complément, un complément économique à mon complément d'athlète. C'est-à-dire que j'étais athlète acteur, et là je rentrais dans l'administratif, l'économique et le gestionnaire, entre autres sur la partie communication, image et droit télé. Et ça a fait une corde à mon arc qui m'a permis d'être aussi un peu plus efficient que les autres lorsque je suis devenu ministre.
Absolument.
Parce que j'avais cette corde-là aussi.
Absolument. On a plein de témoignages dans la même veine. Clara sur LinkedIn qui nous dit aujourd'hui il n'y a plus d'âge pour le faire, se reconvertir, et on peut même changer plusieurs fois de métier, ce qui est mon cas. Oui, vous avez changé plusieurs fois de métier.
Bien sûr. Et c'est bien. Moi, je conseille que. Enfin, je ne suis pas un coach, mais. Enfin, si, quand même.
Un peu ce métier.
Non, mais dès qu'on s'ennuie, il faut changer. Voilà. Il ne faut surtout pas rester dans l'ennui. Moi, j'ai arrêté la politique parce que je m'ennuyais. J'ai arrêté telle activité parce que je m'ennuyais. Aujourd'hui, au sein de Harvey, ma nouvelle société, avec deux anciens athlètes et Myriam qui est une femme formidable, on est quatre associés. Et au-delà de faire de l'immobilier, de concevoir des tiers-lieux, des co-living, des lieux de vie très innovants pour les jeunes actifs, on est parti de ce qu'on a vécu. Et ce qu'on a vécu, c'est-à-dire qu'une galère du logement lorsqu'on est gamin, lorsqu'on est jeune, lorsqu'on démarre la vie, eh bien,
lorsqu'on change de job.
Lorsqu'on change de job, salariat, exactement. Ouais. Lorsqu'on a un point charnière de sa vie, eh bien, on a réfléchi, on s'est remis à cette place-là, ce qu'on a vécu. Et aujourd'hui, au-delà de faire de l'immobilier classique, ce qui nous motive le plus, c'est d'avoir adapté notre immobilier à une problématique. Donc, on veut remplir cette case, on l'a remplie. Et les jeunes actifs, aujourd'hui, vont avoir des endroits dans lesquels, et puis des conditions d'arrivée dans lesquelles ils vont pouvoir vivre, qui vont être exceptionnelles.
Il sait vendre, hein, c'est l'entrepreneur parfait. Voilà,
Non,
vous avez appris tout ça.
J'ai rien appris, parce que c'est ma vie. Moi, à 18 ans, quand je suis arrivé à Paris, enfin, je suis arrivé un peu avant, mais quand il a fallu que je me loge, j'étais judoka, je gagnais pas un rond. Bonjour, il a fallu que je trouve un job, etc., etc. Mon associé dans Harvey, David Inkel, ça a été la même chose pour lui. Même problème. Donc 30 ans plus tard, on se dit c'est toujours la même chose.
Et oui.
Il faut changer ça. Donc c'est ce qu'on a fait.
Plein de questions, plein de témoignages, Lorraine.
Alors on a utilisé le mot pivot pour teaser cette émission, un pivot de carrière. Le mot pivot qu'on utilise souvent sur notre antenne à BFM Business est un terme qu'on a emprunté au basket.
Bah oui.
Et on se demande, enfin en tout cas Mehdi nous demande, est-ce qu'il y a un terme business comme ça qu'on a piqué au monde du judo et qui est utilisable dans le monde économique, un peu comme pivot, on a piqué au basket.
Utiliser la force de l'autre. Voilà. Ça, ah ouais. On pourrait dire que c'est oui, avoir cette intelligence de capter l'élan qui peut vous agresser et le traduire en énergie. En réalité, c'est comme lorsqu'on a fait le voyage Terre-Lune, on a capté la force de la Lune pour revenir sur Terre. Vous voyez, c'est la même chose. Un judoka, c'est ça. Il capte la puissance, il capte la force vers un adversaire, quel qu'il soit, économiquement ou sur un tatami. Il faut savoir regarder ce que les autres font très bien. Voilà. Moi, je m'inspire. Pour moi, mes adversaires n'ont jamais été des adversaires. Ils ont été
des modèles.
Ouais, des modèles. Ils m'ont inspiré. J'ai toujours adoré regarder leur efficacité, regarder leur côté très positif. Donc, j'ai toujours été dans cet état d'esprit. Ce qui m'a permis de pas me mettre de voile entre eux et moi, et d'avoir les bons éléments, les bonnes informations pour les adapter à mes propres caractéristiques et les traduire à nouveau en positif et faire mieux. Et d'essayer de faire mieux.
Lorraine.
Alors le pivot, ça veut aussi dire en termes business, ça implique en tout cas de garder un pied au sol hein, pour permettre à l'autre pied de changer de direction. Vous êtes passé, sport, on a dit, un petit peu de politique, on l'a dit. Et puis maintenant, du côté entrepreneurial, business, vous oscillez entre l'assurance, la finance, l'immobilier. Comment on peut identifier son pivot? Quel conseil vous donneriez
Il faut faire les choses qu'on a dans le bide. Voilà. Je prends l'exemple de l'assurance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des choses nouvelles. Dernièrement, j'ai un de mes amis qui est aveugle, qui est athlète, mais qui est aussi chef d'entreprise. Dans une discussion, il m'explique qu'il a beaucoup de difficultés à s'assurer. En tant que travailleur non salarié, chef d'entreprise, on vient de créer une assurance ensemble sur ce sujet. Voilà. Et on a été déchiffrer l'inconnu, améliorer l'existant pour qu'il s'adapte à ce type de population. Et aujourd'hui, les travailleurs non salariés handicapés vont pouvoir s'assurer aussi bien que vous et moi. Et ça, c'est quelque chose. Moi, j'ai envie d'aider les autres. Voilà. Et je le fais aussi à travers l'immobilier, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure.
Vous me dites, j'ai plein d'envie. C'est d'abord ce qu'on a dans le bide. Mais vous m'avez dit aussi, vous avez dit tout à l'heure aussi, il faut écouter son entourage. Oui. Est-ce que vous dites, il faut savoir aussi parfois réfréner certaines envies?
Oui. Parce que on peut avoir
des
mauvaises idées.
Vous avez réfréné certaines envies professionnelles.
Il faut avoir des mauvaises idées pour trouver les bonnes.
Oui, bien sûr.
Vous voyez,
ouais.
Parce que si vous partez sur des trucs classiques qui vous conviennent pas, vous essayez de rentrer dans un costume trop petit pour vous, trop grand, c'est absurde.
Vous allez vous emmerder, c'est ça l'histoire.
Mais oui, il faut en réalité un des secrets, c'est de bien se connaître, c'est tout. Et si on se connaît pas bien, écoutez les autres et essayer de se confronter dans sa vie pour améliorer la connaissance de soi. Voilà. Et là, on trouve les solutions.
Bon, on aurait encore mille questions, malheureusement. On va vous en poser une dernière. C'est une question-réaction de Gauthier qui nous dit « Après une reconversion dans un métier passion, la menuiserie, il pense à reprendre son ancien job en entreprise. Comment trancher ? Comment on fait quand on s'est un peu... »
D'abord, la question qu'il faut qu'il se pose, pourquoi ? Pourquoi il veut changer ? Il a la chance de pouvoir faire un métier, le métier de la menuiserie, un métier passion toute sa vie. Pourquoi veut-il changer? Est-ce qu'il veut vraiment changer? Ça, c'est la première question. Je connais pas sa réponse, il a lui-même. Et si, pour X raisons, il doit changer, s'il doit pas forcément changer, je le conseille de pas changer, voilà. S'il doit changer pour des raisons de santé ou autre, là, on oublie la première vie, on la met dans un tiroir, on n'y pense plus pour pouvoir mieux se reconstruire ensuite.
Voilà. Voilà. Si on ne doit pas forcément, est-ce que le forcément, il est forcément économique?
Jamais. Moi, je ne raisonne pas comme ça. L'économie n'est que l'huile dans les rouages.
C'est ça.
C'est tout. C'est surtout pas ça. Et je vous assure que les plus grandes réussites économiques viennent d'individus qui ne pensent pas, qui utilisent l'économie pour avoir un projet. Le plus important, c'est le projet.
Un de nos meilleurs invités de l'année et un des meilleurs conseillers, David Douillet, dans BFM Business avec vous. C'était une rediffusion midi 43 sur BFM Business. Dans un instant, on se retrouve juste après ça.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
BFM Business avec vous, même cet été, on continue de recruter. Vous le savez, vous pouvez nous envoyer par mail avec vous @bfmbusiness.com vos offres d'embauche, venir nous faire part de vos ambitions et de vos projets pour l'année prochaine. N'hésitez pas à nous écrire également sur notre compte LinkedIn et notre compte Twitter. 100 000 offres d'emploi ont été passées toute la saison dernière avec Lorraine Goumeau qui recevait notamment YesPark sur BFM Business.
On s'adresse à des gens qui n'ont pas la chance d'avoir de parking chez eux et qui se retrouvent bien embêtés avec leur voiture. Il y en a un paquet et qui sont embêtés parce que tous les soirs, ça veut dire tourner en rond autour de son immeuble.
Il y a des chiffres qui circulent sur le temps qu'on perd à chercher une place le soir. Vous avez en tête un ordre de grandeur
ou... Ouais, c'est affolant. C'est à peu près un an de sa vie qu'on va passer au total à chercher une place de parking.
Alors, si vous écoutez BFM Business à la radio pendant ce temps-là, quelque part, vous ne perdez pas trop votre temps.
Non.
Mais dans tous les autres cas, peut-être.
Un an de sa vie. Non, mais
c'est une vraie grosse perte. Donc, on va aider ces personnes à trouver une place de parking allouée près de chez elles. Initialement, quand on a créé la société il y a 8 ans, pour les véhicules thermiques, et maintenant de plus en plus pour les véhicules électriques, parce qu'il faut savoir que si c'est une vraie difficulté de ne pas avoir de parking chez soi, ça devient un vrai handicap quand on veut acheter un véhicule électrique. Le parking, c'est la nouvelle station de service, pas de garage, pas de recharge, donc on va apporter cette solution à nos clients.
Mais oui, c'est ça qui est fascinant, parce que vous n'êtes pas une boîte toute jeune. 2014 dans la tech, ça fait presque office de vieillard, mais vous venez de faire une grosse levée de fonds, et on voit l'évolution. Vous étiez sur la voiture thermique, maintenant on parle aussi bien de l'automobile électrique que du vélo ou toutes les mobilités. Alors pour continuer à aider les gens à se stationner, vous recrutez pas mal de gens. Une trentaine de postes d'ici à la fin de l'année. Qui sont les gens qui sont à pourvoir là rapidement? Dites-nous Thibault, listez-nous vos besoins.
Ben, nous sommes une plateforme, c'est-à-dire qu'on a un premier enjeu clé qui est de sourcer les places de parking qu'on va mettre à disposition sur notre site et notre application. Ça, chez nous, ce sont les ventes qui le gèrent. Donc, on recrute différents types de profils de vente, des personnes qui vont faire de la prospection, d'autres qui vont traiter les leads entrants ou des personnes qui vont faire du suivi de compte. Et puis, de l'autre côté de la plateforme, on a besoin de louer ces places de parking aux automobilistes, et là c'est plutôt géré par le marketing chez nous. Donc typiquement on recherche un responsable marketing digital, et associé à ces deux fonctions commerciales et marketing, on cherche également des personnes sur les fonctions techniques, technologiques. On est une boîte application et site internet du digital, donc on cherche par exemple un docteur en analyse de données, et puis les personnes qui sont au cœur du réacteur, qui sont les opérations chez nous, typiquement on cherche un stagiaire pour les relations clients. Pour donner un exemple.
Mais oui, pour continuer à résoudre ce problème, est-ce que c'est un problème particulièrement à Paris? Est-ce que votre clientèle est particulièrement parisienne? Ou est-ce qu'on retrouve dans d'autres grosses villes ou moins grosses villes ces tensions?
C'est un problème de grandes villes, effectivement, c'est un problème urbain. Pour autant, ce n'est pas du tout un problème qui est parisien. On a des parkings et des clients à Toulouse, à Marseille, à Metz. Voilà, n'importe quelle grande ville française est concernée par cette problématique.
Et
on intervient sur toutes ces problématiques.
Pas seulement en centre-ville.
Et pas seulement en centre-ville, même plutôt dans les périphéries des villes, parce qu'on a un produit qui est à destination des résidents, des gens qui ont besoin de se garer près de chez eux. Oui. On ne va pas proposer de solution de stationnement de courte durée, hein, de une heure ou deux ou quelques dizaines de minutes. Ce n'est pas notre métier, donc on est plutôt sur des zones résidentielles.
Et les villes moyennes, notamment, après les grandes villes, sont les villes moyennes qui sont un peu prises d'assaut, donc c'est peut-être là aussi qu'il y a des nouveaux besoins qui naissent.
Exactement.
On est là aujourd'hui. Bien, une trentaine de postes à pourvoir d'ici la fin de l'année chez YesPark. Lorraine, dites-nous tout.
On continuera à suivre votre croissance. D'ici là, ça se passe sur Welcome to the Jungle. Je vous appelle YesPark pour ceux qui nous écoutent. YESPARK.
YesPark dans BFM Business qui recrutait cette année. Tout l'été, on vous propose les meilleurs moments de nos chroniques, notamment La France qui bouge. S'intéresse aujourd'hui au secteur de l'agroalimentaire avec l'unique producteur de moutarde d'Alsace. Allez-Laure tire son épingle du jeu dans le contexte de pénurie que vous connaissez sans doute, Justine Vassogne et Olivier Mélan.
BFM Business, 60 minutes business, la France qui bouge. BFM Business, les meilleurs moments de l'année, la France qui bouge, Justine Vassogne.
Aujourd'hui, on est à Mittelhausen, en Alsace, dans un champ de graines de moutarde, la moutarde d'Allez-Laure, une entreprise centenaire qui a vu son carnet de commandes littéralement bondir ces derniers mois. On va voir ça. À quelques kilomètres d'ici, dans la petite commune de Mittelhausen, se trouve l'usine d'Allez-Laure. Ici, chaque jour, Bernard Gass, maître moutardier, fabrique pot de moutarde sur pot de moutarde. La recette est assez simple.
La moutarde, c'est de l'eau, du vinaigre, des graines de moutarde, du sel et des épices. C'est mélangé dans des cuves. Après, c'est broyé dans des meules de pierre. Et ça sort comme moutarde.
Depuis 1873, Allélor produit de la moutarde. La famille Trottmann rachète l'entreprise au milieu des années 2000. À cette époque, ces graines de moutarde sont toutes importées du Canada, le premier producteur mondial. La famille prend alors une décision forte, faire revenir en Alsace la culture de la moutarde. Alain Trottmann est le directeur d'Allélor.
Nous avons commencé à implanter la culture de graines de moutarde en 2008 avec un agriculteur, un essai en plein champ à 2 km de notre usine. Et en 2009, nous avons rassemblé 5 agriculteurs, puis 10, puis 15. Et aujourd'hui, en 2022, nous avons 15 agriculteurs qui nous cultivent plus de 60% de la matière dans notre produit.
Dans les champs alsaciens poussent des graines jaunes qui donnent ensuite de la moutarde douce plus légère que celle de Dijon. Un produit aujourd'hui quasiment en rupture de stock en France car les grands industriels dijonnais qui se fournissent essentiellement au Canada mais aussi en Russie et en Ukraine font face à une double crise. La récolte canadienne à cause de la sécheresse a été très mauvaise l'été dernier. En Russie et en Ukraine, les graines, elles, ne passent plus les frontières. Résultat, le téléphone n'arrête pas de sonner chez Allélor. De nouveaux clients s'intéressent à la petite PME.
Alors quand on toque à la porte des gros industriels en tant que PME de 20 personnes, souvent on est vu comme un fournisseur de prospection lambda. Donc on n'est pas très écouté, très attendu sur le sujet. Aujourd'hui, le phénomène s'inverse. Donc autant la grande distribution que les industriels de grande renommée viennent toquer à notre porte.
Parmi ces nouveaux clients, William Sorin ou encore Donna, qui utilisent de la moutarde dans leurs sandwichs, leurs salades ou leurs mayonnaises. En 6 mois, Allélor a enregistré 30% de croissance. Elle a dû embaucher 5 intérimaires pour faire face à la demande. Avec la pénurie, Alain Trottmann espère mettre sur le devant de la scène un produit que son entreprise cultive aussi dans les champs alentours, le Réfort.
C'est un petit peu notre French wasabi, comme on l'appelle chez nous. C'est une racine blanche qui pousse dans nos terres en Alsace, que l'on transforme sous forme de pâte condimentaire, un peu comme la moutarde, sauf qu'elle est un petit peu plus épaisse, plus fibreuse, puisque la racine est assez sèche. On essaye de faire valoir notre réfort pour se servir comme substitut à la moutarde de Dijon.
Allélor, aujourd'hui essentiellement distribuée en Alsace-Lorraine, veut commencer à inonder les supermarchés du reste de la France. L'entreprise devrait réaliser 6 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Elle vise les 10 millions d'ici 3-4 ans.
BFM Business, les meilleurs moments de l'année. 60 minutes business, toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business.